Comme directeur général du Fonds monétaire international, je crois que de vrais progrès ont été accomplis.
Vous y croyez pas à la reprise ?
Non, personnellement non. Pas du tout.
Oui, nous allons avoir une hausse de chômage continue.
Donc je pense que le gouvernement a plutôt montré ces derniers temps qu'il était plutôt en faveur des entreprises et on espère que ça va durer.
Tous ensemble, tous ensemble. Ouais ouais. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais
ouais. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue sur les rivages d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Le titre de cette émission, Banque, attention danger. Il y a 6 ans, le 15 septembre 2008, la banque Lehman Brothers faisait faillite, l'onde de choc se propageait dans le monde entier. À l'époque, George W. Bush était à la Maison Blanche.
Dans l'histoire de notre pays, il y a eu des moments où il a fallu se rassembler au-delà des frontières partisanes pour répondre à des défis majeurs. Aujourd'hui est l'un de ces moments. Notre système de libre entreprise repose sur la conviction que le gouvernement fédéral ne devrait intervenir sur les marchés que lorsque c'est nécessaire. Étant donné l'état de fragilité de nos marchés financiers actuellement et leur importance vitale dans la vie quotidienne des Américains, l'intervention du gouvernement n'est pas seulement justifiée, elle est essentielle. Nous devons nous attaquer aux racines de l'instabilité de nos marchés. L'économie américaine se retrouve face à des défis sans précédent et nous y répondons avec une action sans précédent.
With unprecedented action.
En 2008 et après, les États se sont endettés et les citoyens payaient encore souvent la note. Parallèlement, des mesures de régulation ont été adoptées, c'est très vrai aux États-Unis et un peu moins en Europe. Alors, 6 ans après, où en est-on ? Le système bancaire international est-il viable ? Est-il fiable ? Les banquiers sont-ils à la hauteur des enjeux ? Pour répondre à ces questions, deux invités. Isabelle Coupet-Soubéran, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le Master Contrôle des risques bancaires, sécurité financière, conformité à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous venez de publier aux éditions de la Documentation française un livre intitulé « Parlons banque en 30 questions ». De quoi est-il question dans ce petit livre ?
C'est un petit livre grand public qui essaie d'expliquer ce qu'est une banque au plus grand nombre, sans complexité, parce que souvent ces aspects sont rendus complexes. Donc voilà, on essaie d'expliquer à quoi sert la banque, on essaie de montrer que c'est fondamentalement utile, une banque, mais aussi fondamentalement fragile. Et c'est la raison pour laquelle...
Nous sommes là.
Voilà,
c'est la raison
exactement.
Pour laquelle nous sommes là. Avec nous également, Philippe Vechter, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la recherche économique chez Natixis Asset Management. Quel genre d'établissement est-ce ?
Alors Natixis Asset Management est une partie de la banque Natixis qui elle-même est une partie de la banque BPCE, Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Et donc nous sommes un gérant d'actifs, nous gérons 630 milliards d'euros dans le monde, un peu plus de 300 milliards en France, un peu plus de 300 milliards aux États-Unis et en Asie.
À quoi sert une banque, Philippe Vechter ?
Une banque, c'est dans les comportements, vous avez des gens qui épargnent, vous avez des gens qui ont besoin de financement. Le rôle initial de la banque, c'est de mettre les deux en relation, de faire de telle sorte que ceux qui ont de l'épargne puissent financer ceux qui en ont besoin. C'est ça le rôle de la banque. Ça peut avoir une autre... Cette mission peut être accomplie aussi par les marchés financiers, mais on voit bien que qu'on soit en Europe ou aux États-Unis, on a des périmètres entre les banques et les marchés financiers qui ne sont pas exactement les mêmes, et d'où le rôle important des banques en Europe.
Isabelle Coupet-Soubéran, votre définition, vous, de la banque ?
Oui, le cœur d'activité d'une banque, effectivement, c'est de collecter des dépôts, de gérer ses dépôts, de fournir des moyens de paiement à côté de ses dépôts, et puis de participer au financement de l'économie, et pour ce faire, eh bien, d'accorder des crédits, éventuellement aussi d'acheter des titres. Bon, tout le problème, ce dont on va discuter sans doute, c'est que les banques se sont considérablement éloignées de leur cœur de métier.
Alors, dans cette émission, nous accueillerons aussi le financier américain Georges Hugeux. Nous entendrons le journaliste Marc Roche, auteur d'un livre qui s'intitule « Les banksters ». Nous parlerons avec Jean-Philippe Prosper, vice-président Afrique de la Société financière internationale, émanation de la Banque mondiale. Nous avons aussi rendez-vous avec Mariam Daou-Gabala, directrice pour l'Afrique de l'Ouest d'Oïko Crédit, une institution de microfinance.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.
Mais pour le moment, revenons au début de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 ans après la chute de la banque Lehman Brothers, Isabelle Coupet-Soubéran ?
Écoutez, on a pris conscience effectivement hein, que le secteur bancaire et financier dysfonctionnait fortement, et on a décidé à partir des premières réunions du G20 de resserrer un peu les règles du jeu. Donc des choses ont été faites en la matière, des réformes ont été entreprises, et il serait tout à fait incorrect de dire que rien n'a été fait. Les choses vont même plutôt dans le bon sens. Le problème,
mais c'est avant,
que...
je vous arrête, avant d'en venir à la régulation, il y a eu un effondrement du système financier.
Ah oui, effectivement, un effondrement imprévu, d'accord. Donc, on a été, si vous voulez, assez aveugle à la montée des risques dans le secteur bancaire et financier. On a laissé faire. Les autorités de supervision n'ont pas été suffisamment attentives. Les banques centrales elles-mêmes avaient mis en place une politique monétaire qui favorisait grandement la prise de risque des banques. Les marchés eux-mêmes étaient totalement aveuglés par la situation, n'ont absolument pas prévenu par une montée des primes de risque. Rien, les signaux, si vous voulez, les signaux n'ont pas viré au rouge. Et donc, ça a été effectivement un véritable cataclysme.
Ça a été un dysfonctionnement du système financier et bancaire, Philippe de Schter?
Alors, je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a eu, sur la période de 2004 à 2007, une situation, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, mais principalement aux États-Unis, d'absence de perception du risque. Un peu à l'image de ce qu'on avait eu à la fin des années 90 sur ce qu'on a appelé la nouvelle économie. D'un seul coup, on construisait, on avait des situations où on valorisait des actifs à des prix spectaculaires sur le marché des actions, simplement parce qu'ils étaient liés à Internet. Dans les années 2004, 2005, 2007, on a eu un peu la même chose, mais beaucoup plus grave, parce qu'on était sur le cœur du financement de l'économie. Et donc, on a eu un environnement où la perception du risque était finalement très très réduite. Et on le voit bien quand on voit les discussions qu'il y a pu avoir entre Sheila Bair, qui était la patronne de l'administration qui surveillait les dépôts américains, et Alan Greenspan, qui était le président de la Banque Centrale Américaine à l'époque, où Sheila Bair disait à Alan Greenspan, attention, il y a des situations qui se dégradent, il y a des risques qui apparaissent, et Alan Greenspan disait, non, finalement, la productivité de l'économie américaine sera suffisante. Et donc, on a eu une montée des risques qui finalement s'est révélée être une crise financière banale, d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous avez d'un seul coup un actif sur lequel tout le monde veut investir et des banques qui sont prêtes à financer l'achat de cet actif-là. Jusqu'au moment où la situation n'est plus tenable et où le château de cartes, d'une certaine manière, s'inverse et s'effondre.
Et vous l'aviez vu, cet effondrement, vous êtes chef économiste dans une grande banque, vous avez de multiples outils d'analyse à votre disposition. Est-ce que vous aviez vu venir cette crise?
Il y a deux choses. On a vu le point qu'on a observé, c'est qu'il y avait une montée des risques sur l'immobilier américain. Mais entre voir une montée des risques et imaginer ce qui s'est passé après, il y a une marche absolument considérable que personne n'avait vraiment perçue.
Alors, la crise de 2008 a provoqué beaucoup de traumatismes. Certains essayent de s'en guérir en publiant des livres. C'est le cas du journaliste Marc Roche, qui vient de publier un ouvrage intitulé « Les Banksters » aux éditions Albin Michel. Marc Roche qui en veut beaucoup au monde de la banque. Écoutez.
Je reproche aux banquiers que j'ai fréquentés pendant toute ma carrière de journaliste dans la City de m'avoir menti. Moi, je suis un libéral convaincu. J'ai toujours cru, vous n'êtes pas chroniqueur financier sans être un libéral. Le capitalisme est le meilleur système qui existe, faute d'un autre. Et donc, moi, la crise de 2008, je ne l'ai pas vue venir parce que je ne savais pas à quoi s'adonnaient mes amis capitalistes, c'est-à-dire qu'ils prenaient des risques avec des produits toxiques. Et bien sûr, cela s'est terminé en catastrophe. Et alors, j'ai découvert cette supercherie.
Mais comment est-ce que vous avez pu vous laisser abuser, parce que vous avez fréquenté ces milieux-là pendant plus de 20 ans pour le journal Le Monde, et quand même, vous vous êtes laissé abuser?
Il y a aussi mon expérience personnelle qui a joué, à savoir que je suis devenu propriétaire en 2001, j'ai obtenu un prêt hypothécaire au téléphone à 100%, plus 25% pour faire ce que je voulais, sans vérification de bulletin de paye. Et donc, Moi, je me suis dit, mais tout est parfait dans le meilleur des mondes, à partir aussi de cette expérience personnelle.
Ils vous ont acheté ?
Ils m'ont pas acheté.
Pas vous en personne, Marc
Ils
Roche.
M'ont aveuglé. Cette politique de crédit bon marché a fait que tout le monde participait à cet essor général sans trop se poser de questions, d'autant plus que la finance était à la mode et donc je mettais dans mes articles les financiers sur le piédestal puisque c'était ce que voulait aussi le lecteur.
Vous décrivez des banquiers, des financiers qui pratiquent la séduction, certes, vous venez de le dire d'une certaine manière, mais aussi l'intimidation.
C'est un mélange très subtil entre séduction et intimidation. Par exemple, aujourd'hui dans la City, je vois et j'interviewe des grands patrons de banque. Mais il y a toujours là un ou deux communicants, un avocat est souvent présent et parfois... Quand il y a quand même critique, il y a harcèlement avec coup de téléphone à l'employeur, avec lettre et avec parfois poursuite légale.
Quand tout s'est effondré, quand Lehman Brothers a fait faillite, comment est-ce que vous avez vécu ça ?
Écoutez, la banque qui m'avait offert le prêt hypothécaire à des conditions plus qu'avantageuses était la Northern Rock. Et donc la Northern Rock s'est effondrée un peu avant Lehman Brothers, à la fin 2007. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'a échappé. Et quand Lehman Brothers s'est écroulé, je n'ai pas été étonné.
Dick Feld, le patron de Lehman Brothers, c'est l'incarnation de ce capitalisme que vous condamnez, que vous critiquez ?
C'est une figure symbolique, le patron de Lehman Brothers, parce qu'il cumule tous les travers de ce métier de bankster, de banquier gangster. Dick Feld symbolise les dysfonctionnements de la finance, le dévoilement de la technologie à son profit, l'impunité, l'entrisme politique et la cupidité via le système des bonus.
La culture bancaire a-t-elle changé depuis cette époque-là ?
La culture bancaire n'a pas changé. Tant que les bonus continueront, même s'ils ont été réduits, mais facilement contournés en augmentant le fonds de retraite, en augmentant les frais professionnels, tant que cette rémunération variable continue à exister, eh bien la culture bancaire reste dangereuse.
Alors, malgré ce que décrit Marc Roche, depuis ces événements, Isabelle Coppès-Soubeyran, il y a eu des mesures de régulation qui ont été adoptées, en particulier aux États-Unis. Lesquelles ?
Alors, oui, effectivement, on peut considérer, si vous voulez, que les règles du jeu ont été un peu resserrées. Hein, on exige des banques qu'elles aient davantage de fonds propres, c'est-à-dire un matelas, si vous voulez, de ressources suffisants pour absorber leurs pertes éventuelles. On exige d'elles également qu'elles soient capables de mieux résister à une éventuelle crise de liquidité. Il y a de nouvelles institutions qui ont vu le jour aux États-Unis comme ailleurs. Alors, notamment, si vous voulez, des institutions de protection des consommateurs. Le pouvoir des banques centrales a été renforcé. Le pouvoir de la Fed a été considérablement renforcé.
La réserve
pour,
fédérale, la banque centrale
la réserve
américaine.
Hein, pour surveiller les grandes banques américaines. Ont été mis en place aussi des institutions qui sont censées, si vous voulez, avoir un regard plus large sur le système financier. Hein, donc, des institutions, des comités de risque systémique qui surveillent et qui sont censés surveiller la formation du risque systémique.
Donc, c'est quoi le risque systémique ?
Alors le risque systémique, eh bien c'est le risque que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire le risque d'un effondrement global du secteur bancaire et financier. Et ce risque systémique, eh bien pour le prévenir, il faut, si vous voulez, agir de manière globale. Il faut mettre en place des politiques de surveillance du crédit, des prix d'actifs. Marc Roche soulignait le formidable emballement du crédit hein, qui a précédé la crise, que personne n'a arrêté parce que personne ne considérait que c'était dans son intérêt, si vous voulez, de contrer cet emballement. Aujourd'hui, eh bien, on comprend hein, que ces tendances-là mènent droit dans le mur. Donc il faut absolument empêcher des emballements de prix d'actifs, il faut empêcher des emballements du crédit, il faut mettre en place de nouveaux dispositifs pour cela. Alors cela étant, si vous voulez, je crois qu'on n'en est pas encore là dans la régulation, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Pour l'instant, on a resserré la vis, surtout au niveau des établissements pris individuellement, que ce soit dans le cadre de Dodd-Frank hein, ou que ce soit dans le cadre de Bâle III au niveau international.
Dodd-Frank, Philippe Wächter,
c'est la régulation américaine. qui vient d'être présenté.
C'est la loi Dodd-Frank.
Voilà, c'est en fait il y a Dodd-Frank aux États-Unis et plutôt Bâle III en Europe, mais les choses se recoupent plutôt parce que les situations, les modes de fonctionnement des systèmes bancaires sont pas tout à fait les mêmes, mais globalement l'idée est la même, c'est celle qui vient d'être évoquée, c'est de dire voilà, on a eu un système qui s'est qui a accentué, qui a accumulé du risque. Et la situation que vous évoquez sur les Lehman Brothers, c'est de se dire, s'il y en a un qui va pas bien, est-ce que le système peut s'effondrer par un effet domino? C'est ce qui avait été tout à l'heure, Marc Roche évoquait le Northern Rock, c'était cette question-là, c'est pour ça que la Banque d'Angleterre était intervenue, pour éviter un système domino.
Alors, faut-il craindre un nouveau 15 septembre 2008 aux États-Unis? J'ai posé la question à Georges Hugeux, qui a jadis été un des responsables de la Bourse de New York. Il dirige aujourd'hui une banque d'affaires, Galileo Global Advisors, entre New York et Pékin. Il faisait ces jours-ci escale à Paris.
Je serais extrêmement surpris que la prochaine crise bancaire ait lieu aux États-Unis. Je suis beaucoup plus inquiet de la possibilité d'une telle crise en Europe.
C'est-à-dire?
Il y a un certain nombre de banques et de régions en Europe qui n'ont quand même pas complètement résolu leurs problèmes d'endettement. L'Italie est évidemment le pays le plus malade aujourd'hui et le plus important, puisqu'il a 2000 milliards d'euros de dette et ça représente 130% de son produit national brut. La France, malheureusement, continue à augmenter son endettement, mais elle n'est quand même pas tout à fait à 100%. Donc les choses sont moins graves. Mais nous nous trouvons devant des masses, 2000 milliards pour chacun des deux pays, face auxquels il n'y a pas de digue. Donc si jamais il devait y avoir une crise du secteur public, par exemple, une crise de l'endettement, la confiance des marchés, ça se répercuterait immédiatement sur les banques. De même que s'il y a une crise sur les banques, ça se répercuterait directement sur le secteur politique.
Pourtant, il y a des banques très solides en Europe, en France, je pense à BNP Paribas. Est-ce qu'elles ne sont pas « too big to fail » ?
Alors la question du « too big to fail » est effectivement posée, puisque la Banque Centrale Européenne maintenant fait un test extrêmement sérieux dont nous aurons des informations le mois prochain, le 17 octobre, c'est-à-dire sont-elles suffisamment capitalisées pour pouvoir absorber les chocs. Tout ce que nous avons essayé de faire depuis la crise de Lehman, tant aux États-Unis qu'en Europe, c'est de s'assurer qu'on mette en place un mécanisme de sauvetage des banques qui n'implique plus l'intervention massive que nous avons connue des gouvernements pour empêcher les faillites. Fondamentalement, c'est ça qui a été fait. Et je crois que c'est fait certainement aux États-Unis. En Europe, il y a malheureusement un retard d'exécution, notamment par rapport à ces ratios que l'on parle de Bâle III, qui sont des ratios dans lesquels trois banques européennes, la Générale, le Crédit Agricole et la Deutsche Bank, sont en dessous des ratios qu'elles devraient appliquer au 1er janvier de cette année-ci. Donc nous avons quand même encore des situations fragiles qu'il va falloir suivre de très près.
Jésabelle Coupet-Soubéran, je vous ai vu froncer le sourcil en écoutant Georges Hugeux.
Non, pas tout le temps en fait. Il y a des points sur lesquels je suis tout à fait d'accord. Alors en particulier, si vous voulez, il y a un gros problème en Europe. C'est que le secteur bancaire est trop gros. D'accord. L'Europe est dans une situation quasiment de surbancarisation. Secteur bancaire trop gros. Vous prenez le secteur bancaire français, c'est à peu près 4 fois le produit intérieur brut, hein, c'est-à-dire 4 fois la création annuelle de richesse. Vous prenez le secteur bancaire au Royaume-Uni, c'est 6 fois le PIB. Même en Allemagne,
le produit intérieur brut.
Oui, 6 fois le produit intérieur brut, pardon. Et même en Allemagne, si vous voulez, où la tradition accorde davantage d'importance à l'économie réelle qu'à la finance, le secteur bancaire, c'est 3 fois le produit intérieur brut.
Philippe Wächter, vous êtes trop gros, vous, votre banque ?
Ma banque, je ne sais pas, mais effectivement, c'est une question qui est posée et qui trouvera probablement sa solution dans l'union bancaire, avec la mise en place d'un marché unique bancaire. Et là, les choses vont changer de façon dramatique.
C'est la fin de cette première partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Nous continuons à parler de la solidité du système bancaire international dans quelques instants.